Nous sommes aux Utopiales avec Samantha Bailly, qui est publiée aux éditions Mille Saisons. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour une présentation de votre diptyque de fantaisie qui est sorti donc chez Mille Saisons, comme je le disais à l'instant.
Tout à fait, donc Au-delà de l'oraison, qui est en deux tomes, tome 1 La langue du silence et tome 2 La chute des étoiles.
Une petite introduction.
En fait, c'est l'histoire de trois sœurs et la plus jeune est assassinée. Les deux autres vont tenter de faire la lumière sur ce meurtre. Nouni, l'aînée, va plutôt voir ça à une échelle politique et va essayer de voir les implications qu'il peut y avoir avec le gouvernement. Et Aline, elle, voudra vraiment retrouver qui est le meurtrier, qui est l'homme qui l'a tué. Ce qui va donner un côté à la fois fantasy et aussi une sous-intrigue plus policière.
Pourquoi avoir choisi un monde de fantasy pour cette histoire?
En fait, je dirais pas que j'ai choisi un monde de fantasy, c'est plutôt l'histoire qui m'a choisi en fait. C'était vraiment ce que j'avais envie de raconter. Et donc la fantasy m'a permis, enfin tout ce qui est élément imaginaire m'ont permis de dire plus clairement certaines choses que j'avais envie de dire.
Ça permet d'échapper au terre à terre et un peu à ses limites.
En fait, je dirais plutôt qu'on est dans les symboles plus que dans une idée d'évasion, mais que parfois certains éléments de magie ou certaines créatures peuvent nous aider à représenter de manière plus flagrante certains symboles en fait.
C'est-à-dire.
Mais par exemple, dans l'univers d'Au-delà de l'oraison, donc ça s'appelle Au-delà de l'oraison, parce qu'il y a des personnes qui sont des oraisonniers, qui font des oraisons funèbres, donc c'est-à-dire qui font un discours d'éloge pour le mort. Et en fait, en plus de ce discours, il y a tout un rituel magique qui est associé à ça, où en fait on va puiser l'âme des défunts. Et donc c'est aussi toute une réflexion sur l'après-mort et sur le deuil en fait, qui va se cristalliser autour de l'idée d'âme qu'on va aspirer chez les morts et qu'est-ce que va devenir finalement l'âme d'une personne qu'on a connue.
Pour ça, est-ce que vous êtes inspiré de religions ou de croyances terrestres?
Pas exactement, disons que la religion que j'ai inventée est par rapport aux astres, ce qui est assez classique, hein, ce qu'on a dans la mythologie, etc. Donc là, c'est plus l'idée d'un mélange entre presque, je dirais, de l'astrologie avec une croyance en fait que les astres ont une incidence sur nos vies, et aussi, quelque part, je dirais, la réincarnation, puisque les personnages croient qu'ils vont se réincarner dans l'étoile à laquelle ils correspondent en fait, sur une autre planète. Donc on a cette idée à la fois de presque astrologie mélangée à l'idée d'une sorte de karma, de réincarnation.
Vous avez développé ça, comment est-ce que vous avez repris nos signes du zodiaque et en développement complètement à côté, ou est-ce que vous êtes inspiré de complètement autre chose et laissé libre cours à votre imagination?
En fait, non, j'ai inventé différents noms d'étoiles et différentes constellations, qui font partie aussi des annexes encyclopédiques du roman, en fait. Donc, chaque étoile correspond aussi à un certain niveau social. C'est-à-dire que quand on est, par exemple, fils de marchand, on ne peut pas se voir attribuer un nom d'étoile de très haut prestige. Mais par contre, quand on est d'une lignée donc de membres de corporations, c'est-à-dire des gens très importants, on va avoir accès à des noms d'étoiles plus élevés. Donc, c'est plus sociologique, en fait, à ce niveau-là.
Pour l'intrigue politique, c'est quelque chose de très compliqué. Ou c'est accessible à déjà des adolescents?
En fait, c'est déjà accessible à des adolescents puisque c'est un roman qui est étudié dans bientôt près d'une vingtaine d'établissements scolaires en fait cette année, donc qui a été mis au programme de collège et de lycée. J'étais moi-même très surprise du degré de compréhension de certains élèves par rapport aux implications politiques. Donc je pense que ça s'adresse, oui, à un public assez large à ce niveau-là.
Pourquoi des héroïnes?
Des filles. Bah, disons que là, je parle des sœurs, mais elles sont chacune accompagnées par leur homologue masculin, en fait. Mais disons que tout simplement, c'était plus facile pour moi d'accéder à une certaine psychologie féminine, sans doute. Et ça m'intéressait vraiment d'avoir des personnages qui sont des adolescentes, qui voilà, vont être entraînées assez classiquement dans le monde des adultes. Mais on a aussi une dimension un peu plus sombre, je dirais, dans le fait que c'est quand même un roman qui a une certaine violence pour... ne serait-ce que psychologique par rapport à toute la réflexion sur la mort et l'oraison. Donc je voulais vraiment articuler cette dimension adolescence et deuil en fait, en quelque sorte.
Pourquoi ce côté obscur?
Finalement, ça fait partie des grandes hantises, je pense, de l'humanité. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et la fantasy a ceci de... Disons que la fantasy peut nous permettre de représenter l'après-mort, justement. On peut avoir accès à, par exemple, dans La Croisée des Mondes, on va explorer l'après-mort avec Lyra. Et là, dans Au-delà de l'oraison, j'avais envie d'explorer le paradoxe du fait qu'on est dans de la fantasy. Donc, on a envie de croire en tout ça, mais que les personnages, finalement, vont avoir leurs croyances qui vont être mises à rude épreuve et vont se demander si, en effet, il y a quelque chose de magique derrière ou si c'est pas juste un leurre qui sert à les manipuler, en fait. Donc c'est ça qui m'intéressait beaucoup dans cette dimension un peu plus obscure.
Est-ce qu'il y a un personnage, enfin une entité magique que vous préférez dans les mondes de fantasy ou un lieu que vous préférez pour pouvoir mettre en scène des choses?
En fait, c'est plutôt les univers qu'on invente soi-même, qui m'intéresse en l'occurrence. Sinon, il y a en littérature de l'imaginaire en général, donc par exemple dans l'Assassin Royal, tout ce qui est construit autour d'un côté médiéval et en même temps fantasy, c'est un lieu voilà que j'adore par exemple. C'est vraiment ou même dans les Aventuriers de la Mer, tout le côté magique des bateaux, des nefs, etc. C'est des choses qui m'intéressent beaucoup.
Donc Robin Hobb comme influence, est-ce qu'il y en a d'autres?
Donc Robin Hobb et donc À la croisée des mondes aussi, c'est vraiment les deux romans qui m'ont beaucoup marqué dans mes premières lectures de fantasy. En termes de profondeur et d'exploration de la psychologie des personnages, je trouve ça vraiment très très réussi. Après, il y a aussi beaucoup d'autres romans de fantasy que j'ai lus et appréciés, mais ces deux-là, c'est vraiment oui, des influences assez marquantes, je pense.
Ça explique l'implication de vos personnages dans la politique et les intrigues, du coup.
Oui, voilà, tout à fait. Et aussi un certain lien avec les animaux qui est exploité, qu'avec les lynx en particulier. Donc là, uniquement des félins qui, en fait, ont pour principe d'échanger leur regard, en fait, avec les êtres humains. Et donc aussi toute leur... d'entrer en empathie et d'échanger aussi tout leur vécu. Donc ça correspond à certains aussi, certaines influences avec les démons, par exemple, dans La Croisée des Mondes.
Du coup, vous avez été chercher quelque chose de particulier sur les lynx, vous êtes renseigné sur le côté scientifique ou vous aviez une affection déjà pour cet animal à la base?
En fait, oui, les félins en général, mais oui, j'ai fait quand même certaines recherches pour éviter de dire des bêtises. Et d'ailleurs, j'en ai dit pas mal dans le premier jet, mais c'est des choses rectifiées. Et, oui, j'essaye de faire pas mal de recherches, notamment tout ce qui est navigation, j'y connaissais également rien et j'ai dû pas mal me renseigner. Et donc il y a eu un certain travail de documentation en amont pour des aspects du roman comme celui-ci et notamment les lynx, le comportement et du coup est-ce qu'on en trouve encore en France, mais bon, je pense pas avoir la chance d'en voir un jour à l'état sauvage, mais oui, c'est des animaux que j'aime beaucoup.
Est-ce qu'après ce diptyque, vous avez la possibilité de réexplorer votre monde pour recréer une autre histoire?
Bien, actuellement, je travaille sur une préquelle, en fait, qui se déroule 30 ans avant les fêtes d'Au-delà de l'Oraison et qui met en scène le personnage de Sonax, qui est en fait un trafiquant d'objets magiques dans le roman. Métamorphose, c'est le nom de cette préquelle, retrace vraiment toute l'enfance et l'adolescence de Sonax jusqu'au personnage qu'on connaît et va apporter un nouvel éclairage en fait sur certains éléments d'Au-delà de l'Oraison, donc qui se déroule sans que les personnages principaux en aient connaissance, mais nous, le lecteur, pourra avoir connaissance à certains aspects grâce à cette préquelle.
Date de sortie prévue pour cette préquelle?
Eh bien, je dois finir le tome 1 pour le 31 décembre, pour ma charmante éditrice qui me presse, si elle m'entend. Mais si ça lui plaît, on aimerait le faire sortir pour l'année prochaine. Donc voilà, mais pour le moment, elle ne l'a pas encore lu, et donc il faut que je termine. Et ensuite, si ça la convainc, l'année prochaine, normalement, il devrait être là.
Un mot sur le livre avec son illustration, sa couverture.
La langue du silence et la chute des étoiles. Donc la couverture a été faite par Mia, qui est mangaka aux éditions Pika. Et donc actuellement, nous travaillons sur un projet de manga. Donc je suis au scénario et elle donc fait les dessins. Et il est actuellement en cours de soumission chez plusieurs éditeurs. Le lien justement avec la couverture, c'est que c'est une très bonne amie qui l'a faite et qu'on compte continuer cette collaboration.
C'est un manga de quel type ?
Fantasy. oui, c'est vraiment. En fait, c'est un scénario qui parle d'un de mes premiers romans de fantasy. Donc, j'ai totalement réécrit pour en faire un scénario. Là, en l'occurrence, le pitch, c'est l'histoire d'une île en fait qui est totalement autosuffisante. Les personnes qui y vivent n'ont aucun accès avec l'extérieur. Elles sont surveillées en fait par un Léviathan, un grand dragon aquatique. Donc elles n'osent pas aller plus loin que les côtes parce qu'elles savent que ça fait partie de leur malédiction. Et donc chaque année, il y a un rituel de prière pour demander aux Léviathans de partir et de leur laisser leur liberté. Donc toute la croyance de l'île est fondée là-dessus jusqu'au jour où en fait une étrangère est trouvée sur l'île. Et donc tout va basculer au niveau de ce petit univers puisqu'on va comprendre qu'il y a vraiment un monde extérieur et que voilà, le Léviathan n'est peut-être pas là par hasard.
Le thème des frontières, qui est le thème des Utopiales cette année, est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire? Est-ce que comme ça vous avez eu deux, trois idées?
Pas encore, mais Peut-être que pendant le festival, j'aurai quelques idées, mais non, pour le moment, j'ai pas encore eu en tout cas de flash.
Pour terminer nos interviews, on a une question cette année qui est celle-ci. Si on vous donnait le choix entre la vie éternelle et le don d'ubiquité, vous prenez quoi ?
C'est difficile comme question. Je pense que je choisirais la vie éternelle. Je trouve ça plus intéressant que le don d'ubiquité. Je me sentirais un peu perdue d'être à deux endroits à la fois. Je crois que je préfère à la limite vivre très longtemps et au même endroit. Donc je crois que je préfère ça.
Vous avez des dates de dédicaces qui sont déjà calées ?
Oui, donc alors 4 et 5 décembre, c'est donc le Festival Jeunesse de Rouen. Ensuite, il y aura le Salon du Livre de Paris au mois de mars. Et donc pour le moment, c'est les deux dates qui sont certaines. Ensuite, il y aura sûrement Mons en Belgique au mois d'avril et Les Imaginales en mai pour la remise du prix Imaginal des lycéens, donc où la langue de silence est nominée cette année.
Vous pouvez nous donner votre adresse de site internet ou blog que vous avez ?
C'est www.samantha-bailly.com.
Quelque chose à dire en plus ou un message, je sais pas.
Merci pour vos questions. Comme message, je vais profiter pour remercier Aurélia Rojon, mon éditrice chez Mille Saisons, pour tout le travail qu'elle fournit pour faire vivre cette maison d'édition depuis 5 ans. Je voudrais la remercier.